9h, 10h.
Tout s'explique.
Nous parlons d'immobilier ce matin et qui de mieux placé que notre cher Bertrand Morisot, développeur immobilier. Nous parlions donc tout à l'heure de cette personne de 70 ans qui ne devait plus amener 20% de fonds propres mais 33,4. Donc ce n'est plus du tout le même budget.
Alors c'est plus du tout le même budget, si on prend un exemple, admettons vous souhaitez acheter un bel appartement en attique à 1 million, il faudra apporter 200 000 francs de fonds propres, donc 20%. Donc la banque va vous prêter 800 000, donc ce qui équivaut à 80%. Mmh. Et sur ces 800 000, on aura 660 000 donc en premier rang, correspondant à 66,6%, et puis ces 660 000 n'auront pas l'obligation d'être remboursés. Par contre, on aura justement ces 134 000 en deuxième rang, correspondant à 13,4% de la valeur du bien, et ça doit être remboursé à 15 ans, en 15 ans et à 65 ans plus tard. Donc si on prend l'exemple de cette personne de 70 ans, elle n'aura pas amené 200 000 de fonds propres, mais 334 000. Donc ça change quand même la donne.
Oui. Ces histoires de fonds propres et d'amortissement du deuxième rang, ça n'a pas toujours été comme ça, non ?
Alors ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, dans les années 80, toutes les banques ont commencé à offrir des crédits hypothécaires, alors qu'avant, seulement certains établissements pouvaient le faire. Et puis à cette époque, les crédits étaient faciles vraiment à obtenir, hein, même si ce n'était pas forcément le cas dans les années 75. Enfin bref, dans les années 80, c'était le boom, la croissance à foison. Mmh. Il n'y avait pas besoin d'amener de fonds propres et aucune banque ne se déplaçait pour valoriser le bien immobilier que vous souhaitiez acheter. Donc elle ne les estimait même pas. Et puis c'est aussi pour ça qu'on peut voir au niveau des statistiques, on voit que le volume des dettes hypothécaires a passé de 150 milliards en 1985 à 400 milliards en 1990.
Ah oui, ça fait quand même plus du double en 5 ans.
Oui, et dans les années 90, on est entré dans cette phase de profonde récession, de crise économique, on se rappelle, hein, la croissance qui était à taux. Mmh. Donc les banques, elles ont tenté d'augmenter leur taux d'intérêt pour combattre un petit peu cette inflation structurelle. Puis du coup, les gens ne pouvaient plus payer les intérêts bancaires, puis ont été forcés de vendre. J'en veux pour preuve les taux d'intérêt au 1er janvier 90, hein, 1990, qui sont montés jusqu'à plus de 11%.
11%? Ça fait beaucoup, hein?
Oui. Et du coup, on s'est retrouvé avec une offre beaucoup trop importante. Bref, ça a été un petit peu la crise jusqu'en 2000. Et puis, pour répondre à votre question, quant à savoir si l'histoire des fonds propres a toujours existé, eh bien, je vous répondrai en vous disant qu'ils sont devenus quasi obligatoires à partir de 2000. Mmh. Donc, il a aussi fallu commencer à amortir la dette hypothécaire. Mais malgré tout, depuis 2000, les prix n'ont cessé d'augmenter. Ils ont par exemple doublé sur l'arc lémanique en 10 ans. Et les taux d'intérêt hypothécaire n'ont jamais été aussi bas que ces dernières années. Hein, si on compare un petit peu, début des années 90, on était à 11%,
oui.
Un petit peu moins. Dans les années 2000, on était peut-être aux alentours des 4,5%. En 2008, aux alentours des 4%. Puis aujourd'hui, on est plus autour des 1,5%, voire beaucoup moins. C'est important d'avoir cette historique en tête, parce que ça aide aussi d'une part à répondre à votre question, puis à comprendre pourquoi on a eu toutes ces mesures de durcissement d'octroi ces dernières années, pour justement ne pas revivre les années 90.
Donc l'histoire de l'amortissement sur 15 ans, c'est aussi relativement récent.
Alors c'est exact, c'est effectif depuis le 1er septembre 2012. Mmh. Avant ce deuxième rang, il fallait l'amortir sur 20 ans. Et ce deuxième rang doit aussi être amorti au maximum à 65 ans. Et puis dès ce 1er septembre 2012, il y a aussi eu l'introduction du principe de ce qu'on appelle la solidarité passive pour la prise en compte du deuxième revenu. Ça veut dire que celui qui se porte garant est autant responsable pour le tout à l'égard du créancier que celui qui a contracté le prêt.
Mais ça en fait des contraintes, dis donc.
Ça en fait des contraintes, et puis c'est de loin pas tout. Dès cette même date, donc septembre 2012, il y a aussi eu l'introduction de la valeur la plus basse.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
En fait, la banque va faire sa propre estimation de la maison, par exemple via la méthode hédoniste. Si elle obtient une grande différence entre le prix qu'elle estime et le prix de vente convenu entre l'acheteur et le vendeur, eh bien la différence va être financée par des fonds propres, par les fonds propres de l'acheteur. Donc pour prendre un exemple, si le prix de vente est convenu à 850 000, mais que la banque estime que la maison vaut 700 000, il faudra amener 150 000 francs de fonds propres en plus. C'est important d'insister là-dessus, parce que personnellement, les discussions que j'ai avec mes clients vendeurs, quant justement à la définition du prix de commercialisation, je leur fais vraiment comprendre que les prix fantaisistes ne font plus de sens aujourd'hui, parce que les banques ne suivent plus. Donc Dieu sait si cette étape vraiment de l'estimation, que je pratique aussi personnellement à chaque nouvelle prise de mandat, est importante. Il faut vraiment maîtriser cet aspect. Parce que les gens disent « Ah, on essaie de mettre 150 000 de plus, puis il y a peut-être un Genevois qui va venir, et puis que... » Non, c'est plus tellement comme ça que ça se passe. Je ne parle pas de biens qui sont coup de cœur ou de haut standing.
Oui, oui, oui.
Mais pour des biens en dessous de 2 millions et demi, il faut arrêter de rêver, quoi. Donc, je dirais que... Mais ce n'est pas vraiment ces mesures-là qui ont posé le plus de problèmes.
On se retrouve donc dans quelques instants. À tout de suite, Bertrand.
Les conseils immobiliers de Bertrand Morisot, de Bertrand Morisot SA. Courtage, conseil et développement immobilier. Bertrand-morisot.ca